Chapitre 4. Dans le bureau voisin, séparé de celui du sommier par une simple cloison, Caldas, du matin au soir, entendait un bruit discordant de querelles. Les récriminations et les gros mots éclataient tout d'un coup comme des bombes et réveillaient les échos somnolents de la galerie. La détonation des poings violemment frappés sur la table faisait tressaillir M. Raflard. Puis c'était des bruits de portes ouvertes avec violence, de fenêtres fermées avec fureur. Caldas alla aux informations, et son enquête lui révéla encore une des petites misères de la vie administrative. Ce bureau tapageur est celui de la vérification. Dans cette pièce sont rivés, côte à côte, deux hommes aussi différents de caractère, d'humeur et d'esprit que de tempérament. Chien et chat, si vous voulez. Naturellement, ils en sont venus à se haïr de cette haine féroce des forçats, compagnons de chaîne, dont le caractère ne sympathise pas. L'un tuera l'autre, soyez-en sûr, si on ne les sépare, et on ne les séparera point. Le premier de ses employés est lymphatique, le second est sanguin. L'un est habituellement froid, maussade, compassé. L'autre est gai, vif, remuant. Tous deux ont l'humeur inégale, mais en sens contraire. Quand l'un est bien disposé, l'autre est dans ses mauvais quarts d'heure et réciproquement. La température de la pièce est le motif habituel des querelles. L'employé lymphatique arrive d'ordinaire le premier, tout emmitouflé, avec un triple étage de par-dessus, un châle long pour cacher un plaid sur la poitrine, des bottes fourrées et des gants de peau de lapin. Il a froid. Il ajoute une bûche ou deux au feu déjà allumé par le garçon et s'installe devant la cheminée. De temps en temps, il se lève pour aller consulter un petit thermomètre placé derrière son bureau. Il ne commence à être un peu à son aise que quand la température dépasse 25 degrés. Entre l'employé sanguin, sans cache-nez. Il a chaud. « On étouffe ici !» s'écrie-t-il de la porte, et il marche droit vers la fenêtre qu'il ouvre à deux battants. « Ah, ça, vous êtes fou !» dit le lymphatique. « Il y a 7 degrés au-dessous de zéro !» « Allons donc, réplique le sanguin, il dégèle, voyez plus tôt. » Et il montre son thermomètre, car il en a un lui aussi, mais placé en dehors de la fenêtre. « Il dégèle, ça vous plaît à dire, mais moi je meurs de froid. Parbleu, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un ver à soie. Et vous, un ours blanc, c'est du lait d'amande douce que vous avez dans les veines. » Et vous, avec votre face rouge, on dirait toujours que vous avez bu. Monsieur Gilliette, eh bien, monsieur Lambrequin. Et la querelle s'envenime, et le lymphatique gilet s'élance vers la fenêtre. Je vous déclare, s'écrie-t-il, que je veux la fermer. Et moi, je vous affirme qu'elle restera ouverte. Le pauvre gilet, qui n'est pas le plus fort, retourne tristement à la cheminée qu'il emplit de bois à incendier le ministère. « C'est dégoûtant, ma parole d'honneur, murmure-t-il, c'est à donner sa démission. » Et il réendosse successivement tous ses par-dessus, tandis que l'embrequin, qui se met en bras de chemise, lui dit d'un ton goguenard. « Dites donc, si vous voulez mardingote, Gillet prend sa revanche à chaque fois que sort l'embrequin qui ne peut pas tenir en place. Il ferme tout hermétiquement, et comme le bois est à discrétion, il a vite rétabli une température de serre chaude. L'instant d'après, au retour de l'embrequin, la serre chaude redevient une glacière. Qu'on s'étonne après cela du coryza chronique de l'employé Gillet. À ces brusques variations de température, un thermomètre ne résiste pas. L'instrument de Gillet, qui oscille perpétuellement entre le climat de la Sibérie et celui du Sénégal, a besoin d'être renouvelé toutes les 6 semaines. Mais pourquoi ne change-t-on pas de pièce l'un de ces deux malheureux ? Demande Rodin. Oh, s'en garderait bien, lui fut-il répondu. La devise de l'administration est celle de Louis XI, diviser pour régner. Grâce à cette politique habile, on brûle dans ce bureau, bon an, mal an, 15 voix de bois. Il y fait un froid de loup. Les armées en marche ont de tout temps été suivies par des bandes nomades de marchands. Ces petits industriels trouvent moyen de vivre et de prospérer de la paye du soldat, si minime qu'elle soit. Sous le feu des canons russes de Sébastopol, ces bohèmes du négoce avaient bâti toute une ville de planches et de toiles cirées. Ils étaient à Magenta et à Solferino. Ils ont suivi nos soldats jusqu'au Mexique. Eh bien, le ministère de l'équilibre, comme tous les ministères, a aussi ses fournisseurs ambulants, et la race bénie de Jacob a le privilège exclusif de cette industrie. L'administration, certes, n'est point chiche d'articles de bureau. Elle en donne à bouche que veux-tu. Cependant, il vient tous les jours au ministère des marchands de plumes et de crayons qui font des affaires d'or. Il est vrai que ces marchands sont des marchandes. Caldas fut très surpris lorsque, pour la première fois, il vit une jeune et jolie petite juive entrer dans le bureau de sommier à l'heure où le public n'entre pas. Elle était connue des employés qui accueillirent avec une bonne humeur galante cette distraction en jupon. Les grivoiseries de Gérondeau les fauchèrent peu, mais lui vendit beaucoup de menus bibelots, et le riche expéditionnaire paya une quinzaine de francs au moins le délicat plaisir de débiter de triviales gaudrioles à cette petite vertu. Nourrisson, qui n'acheta qu'un pain de savon et un pot de pommade, s'avisa d'être aussi hardi que son gros compagnon, mais il fut remis vertement à sa place. Basquin, qui tenait à dire son mot, en fut quitte pour une douzaine de plumes à trois becs. L'administration n'en donne pas. Caldas lui-même, en voyant les beaux cheveux de cette demoiselle, s'aperçut qu'il avait besoin d'une brosse à ongles. Seul M. Raffard n'acheta rien, et lorsque l'Israélite fut sorti, il ne craignit point de dire vertement son opinion sur cette espèce de négociante auquel l'administration devrait bien fermer la porte. « Car il me paraît évident, continua-t-il, que le commerce n'est pour elle qu'un prétexte et que ce n'est point seulement pour leur crayon qu'elle cherche un acheteur. « Il faut faire aller le commerce, » dit Gérondeau. « Au dehors, tant que vous voudrez, » reprit le commis principal. « Mais dans les bureaux, je dis moi, qu'elles détournent les employés de leur travail quand elles ne les débauchent pas. Et enfin, qui vous dit qu'elles ne viennent pas ici pour surprendre les secrets de notre administration ?»« Supposeriez-vous, » demanda Romain, « que ces juives sont payées par les journaux belges ?» M. Raviard fit un geste de mauvaise humeur, et Nourrisson expliqua à Romain que les dispositions peu favorables du commis principal à l'égard de la postérité féminine d'Abraham datent de certains jours où il acheta de l'une d'elles une douzaine de mouchoirs de fil qui étaient en coton. Mais il y a des marchands plus sérieux et bien autrement dangereux pour les employés. Ce sont les marchands à tempérament. Pour le créancier, l'employé fut toujours le client de prédilection. Avec lui, les chances de perte sont presque nulles. Apporte-t-il quelque mauvaise volonté ou quelque négligence à acquitter ses dettes, l'opposition aux appointements est là, qui le remet vite dans le droit chemin. Aussi, du matin au soir, des courtiers de toutes sortes viennent-ils réciter leur boniment dans les bureaux de l'équilibre. C'est d'abord le courtier en horlogerie qui tient sous son bras un cahier de modèles pour ceux qui désirent des pendules. Il vend en raison de 100 sous par mois, au prix de 100 écus, de belles et bonnes montres en or de 60 francs. Il y a le courtier en librairie, le plus mal vêtu de tous, qui place ses ouvrages en souscription. Il vend des livres qui ne se vendent plus, la collection de l'observateur religieux, les 120 volumes de l'encyclopédie, des cuisiniers, et fait des abonnements aux moniteurs, des sages-femmes. Il propose encore les ouvrages à prime, production remarquable qui donne droit à un dîner à 2 francs au Palais Royal, un gilet de flanelle et une entrée à la San Valentino. Il y a enfin le courtier marchand de vin qui se charge de vous livrer, au prix que vous coûterez un grand cru de Bourgogne, d'excellents petits mâcons récoltés à Argenteuil. Ces enjôleurs soufflent à l'oreille des employés besogneux la tentation du crédit. S'il est timide, il le rassure par la longueur des échéances. Lorsque, avant de faire une dépense inutile, et ce sont les plus entraînantes, le pauvre garçon pèse et sous-pèse son budget, il l'étourdit sur l'avenir, il font luire à ses yeux des ressources inattendues, des augmentations qui n'arriveront jamais, des gratifications sur lesquelles il ne faut hélas guère compter. Ces audacieux l'endoctrinent de théories étranges. Ils affirment que le crédit pose un homme et qu'on est considéré en raison directe de ce que l'on doit. Allô, monsieur, prenez cette montre, non pour savoir l'heure, mais pour cette chaîne d'or qui fait si bien au gilet. Prenez ce vin que je vous vends plus cher que le marchand au détail. On a toujours de l'économie à acheter en gros. Prenez ces livres à prime, rien que la prime en représente la valeur, et la prime ne vaut rien. Demandez, achetez, prenez. Et l'employé se laisse séduire. Il achète sous prétexte qu'il paiera à la longue, sans s'en apercevoir. C'est plus cher, mais c'est plus mauvais. On en a vu, hélas, qui achetait pour revendre. Et ici commencent ces opérations irrégulières qui conduisent au décis chronique et à l'abîme. Le commis Chabanette est un exemple vivant de cette existence de désordre en partie double. Un jour qu'il avait envie de faire une partie fine et qu'il était sans argent, le démon lui apparut sous les traits du courtier en horlogerie. Chabanette souscrivit pour 350 francs de billets payables de mois en mois, il se trouva ainsi propriétaire d'une superbe montre dont le soir même l'administration du Mont-de-Piété de Paris lui donnait en rechignant 2 bons louis d'or. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Ravi d'avoir découvert ce moyen de battre monnaie, Chabanet eut très souvent envie de faire des parties fines. Il acheta, acheta, acheta. Aujourd'hui du vin, demain des instruments d'optique et des livres, des pendules et des dentelles et tout ce qu'on lui proposa. Chaque nouvel achat se grevait ses appointements mensuels que de 10 francs l'un dans l'autre. À la 10e partie fine, Chabanet s'aperçut que son revenu était diminué des 2/3. Il lui restait juste 50 francs pour la pâtée et la niche. Il est vrai que ses appointements n'étaient hypothéqués que pour 3 ans. Vivre 3 ans avec 600 livres par an, était-ce possible? À partir de ce moment, Chabanet renonça aux parties fines, mais il fut réduit à continuer d'acheter pour vivre. Aujourd'hui, sa dette flottante absorbe la totalité de ses revenus et au-delà. Il achète avec désespoir. Il ne peut plus s'arrêter sur cette pente fatale. Comme au juif errant, une voix impitoyable, la voix de la nécessité, lui crie « Achète !» et il n'a pas 5 sous dans sa poche. Si la dette est le signe manifeste de la prospérité d'un homme, on peut dire que Chabanet a un bel avenir. Caldas, ayant ouvert un livre de statistiques, ses yeux s'arrêtèrent précisément sur cette phrase à l'article « Prison ». Sur 100 décès de prisonniers, 75 ont lieu dans les 3 premiers mois de la détention. Cette première période constitue le temps critique du régime claustral. Beaucoup de tempéraments n'y résistent pas. Mais passé ce terme fatal, La vie moyenne des pénitentiaires excède de 3 ans et 4 mois la vie moyenne du reste des habitants de la France. Cet admirable résultat est dû, on peut le dire hardiment, à l'existence sobre et réglée du détenu, et l'honneur en revient à la solitude et si éclairée de l'administration supérieure. Ce petit alinéa épouvanta Romain. « Évidemment, se dit-il, je suis dans la période critique. Le malaise général que j'éprouve, je l'attribuais à l'ennui. Ben, je m'abusais. C'est que je ne m'acclimate pas. » Il se regarda dans la glace, se tira la langue à lui-même et se tâta le pouls. « Oh, certainement, j'irai pas 3 mois. » Alors il se prouva qu'il était prudent, puisqu'il avait la faiblesse de tenir à la vie, de renoncer à la carrière administrative. Il perdrait 100 francs par mois, c'est vrai, mais que n'y gagnerait-il pas en revanche? D'abord, il ne s'ennuierait plus abominablement, comme il le faisait depuis son entrée au ministère. Il pourrait être seul quelquefois et ne serait plus condamné à cette éternelle cohabitation qui devient insupportable à la longue et fait trouver haïssables les gens que nous sommes le plus disposés à aimer. N'a-t-on pas entendu dire que des marins, partis les meilleurs amis du monde, en arrivaient après 6 mois de navigation à échanger des coups de couteau? Or, Romain était las de naviguer sur le même bord que Gérondeau, que Raffard, que Sansonnet et que Jouvard le poète. Il savait bien que la pauvreté l'attendait et qu'il aurait la malédiction de sa famille, mais il était résolu à tout supporter. Il comptait d'ailleurs s'arranger une existence heureuse, égayée de petits bonheurs négatifs. Et certes, au ministère, pendant 1 mois, il avait fait provision pour l'avenir de ses jouissances peu coûteuses. Pourrait-il connaître le spleen désormais, après la besogne affadissante à laquelle il avait été condamné? Il lui semblait aujourd'hui qu'il eût écouté sans bâiller une conférence de M. Frédéric Morin. Le matin, il se lèverait tard. En se roulant paresseusement sous ses couvertures, il se dirait « Ah, voici l'heure d'aller au bureau. Raflard patrouille dans la boue. Basca sera malade. » Dans l'après-midi, autre félicité. Peut-être ne déjeunerait-il pas, mais s'il déjeunait, il ne ferait pas sa cuisine lui-même. Il mangerait au restaurant et il ne serait pas exposé par distraction à boire sur l'encrier. Il irait, il viendrait, il ne serait point cloué sur sa chaise comme un tailleur sur son établi. Il ne ferait plus, à force de rester assis, des genouillères à son pantalon, ce qui empêche un jeune homme de se produire avantageusement dans le monde. Enfin, dans les beaux jours, il vivrait au grand air et se griserait de soleil dans la campagne de Paris. « Voilà donc qui est décidé, » conclut-il. « Je patiente jusqu'à la fin du mois, je touche mes appointements et je dis à l'administration, « Tu n'auras pas mes os. » Avec mes 100 francs, je me lance dans la haute industrie. Heureusement, je n'ai plus beaucoup à attendre. Nous sommes le 29 et c'est après-demain. » Le jour de l'émargement. Il n'y a que 12 jours d'émargement dans l'année administrative, 1 par mois. C'est dommage, c'est le seul jour qui offre quelque agrément. Aussi, comme ils soupirent après les employés de l'équilibre, comme ils comptent avec impatience, à l'instar des écoliers à l'approche des vacances, les heures qui les séparent de ce fortuné moment. Dès le premier du mois, il y en a qui disent « Alors, dans 29 jours, nous toucherons. » Toucher, ah, c'est la fin de l'employé sur cette terre. Toucher, que les 2 syllabes de ce mot sont caressantes pour l'oreille du bureaucrate. Aussi, à l'équilibre, ne dit-on pas « le jour de l'émargement », c'est le terme officiel. On ne dit pas « la paye », comme dans le bâtiment. On ne dit pas « la solde ou le prêt », comme dans l'armée. Non. Comme l'ouvrier parisien et comme la grisette, l'employé de l'équilibre dit « la sainte touche ». Ô sainte touche, qu'il est doux de célébrer le jour de votre fête! Comme il est bon de sentir dans sa poche frétiller vos médailles! Sainte touche, venez à mon aide, dit le pauvre diable, qui vient de voir filer sa dernière pièce de 5 francs. Sainte touche, secourez-moi! Voici mon pantalon qui s'effrange, mes souliers qui éclatent de rire et mon chapeau qui rougit, le traître! Sainte touche, soyez-moi propice. Vous savez avec quelle impatience ma femme attend cette jolie robe de soie qui plaira tant à son cousin Alfred, cette robe de soie qui me ramènera peut-être un quart de lune de miel. Sainte touche, écoutez-nous. Le propriétaire s'impatiente. Le restaurateur ne veut plus faire crédit. Le limonadier demande de l'argent. Sainte touche, priez pour nous. Les créanciers hurlent à nos chausses. Sainte touche, ayez pitié de nous. Sainte touche, exaucez-nous. Sainte touche a entendu toutes ces voix éplorées qui criaient du fond de l'abîme. Et c'est aujourd'hui le jour de sa fête. Dès hier, les employés étaient plus frais, plus gais, plus dispos. Beaucoup ont parlé de travailler et quelques-uns même ont essayé de se mettre à la besogne. Tous bâtissaient leur château en Espagne. Ils dépensaient l'argent de leur mois. Les hommes d'ordre, avec un crayon, faisaient leurs petits calculs sur un coin de leur sous-main. Ceux qui ont des dettes s'ingéniaient à trouver un moyen pour ne pas les payer. C'est à quoi on songe toujours quand on vient de recevoir de l'argent. Les gens de plaisir complotaient dans un coin quelque aimable folie. Ce matin, ils sont tous arrivés à l'heure. Il n'y avait pas de retardataire, il n'y avait pas de malade. Braves employés! Ils n'ont pas de bouquet à leur boutonnière comme les noceux de campagne, mais leur figure est endimanchée. La bienveillance est à l'ordre du jour. L'employé lymphatique et l'employé sanguin ne se prennent plus aux cheveux. Monsieur Raflard est presque aimable, et l'Angelin oublie un peu ses griefs contre l'administration. L'hôtel du ministère même semble avoir changé d'aspect. La figure du portier est moins rébarbative. Les corridors sont moins sombres, les cours moins humides, les vitres moins poussiéreuses. Comme on voit bien qu'on va livrer à tous ces rongeurs une tranche du budget. Un nuage d'or a crevé au-dessus de la maison. Tombe, tombe, manne bénie que produit le contribuable. Il rit, il chante, il est en fête, l'hôtel de l'équilibre. Il est en branle comme un campanile italien pour la Sainte Madone. À tous les étages, le carillon de l'or dit sa chanson. Cependant, tout le personnel est sans dessus-dessous. Les bureaux sont désertés. On court, on se heurte dans les corridors, on monte, on descend, on s'appelle, on crie. À la porte aboie la meute des créanciers qui flairent la curée. Allali, allali! Seul, peut-être au milieu de toutes ces joies, le caissier est triste. C'est son mauvais jour. Le voyez-vous derrière sa grille, maigre, blême? Son œil a des paillettes jaunes. Reflet de l'or qu'il manie à la journée. Il grogne comme le dogue à qui l'on arrache un os. C'est qu'on lui arrache son or à lui. C'est qu'il ne serait pas caissier s'il n'éprouvait pas une douleur à l'âme de voir s'enfuir tant d'argent. Il est plus pâle ce jour-là que l'homme dont on a coupé les veines et qui voit se tarir sa vie avec son sang. Il grogne, le caissier. Il est d'une humeur massacrante. Il a des paroles bourrues, des regards haineux. Et pourtant, comme ils le saluent, les employés, comme ils sont obséquieux, comme ils se font doux et petits garçons en allongeant la main sous le guichet étroit. Tous ne viennent pas à la caisse, pourtant. Chaque bureau délègue un homme de confiance d'une probité reconnue, qui, lorsqu'il y va, muni du reçu de tous ses camarades, ne manque jamais cette plaisanterie. « Adieu, messieurs, je pars pour la Belgique. » Il ne va jamais jusqu'en Belgique. Mais il va toujours au café de l'équilibre et s'y livre à l'interminable partie de billard. Comme on s'impatiente à son absence, comme on le maudit. S'il revenait, on pourrait s'en aller, mais non, le misérable. Il ne reparaît qu'au moment où 4 heures vont sonner. Un hurrah salue son entrée. On oublie ses torts en entendant le bruit pesant du sac qu'il jette sur la table. Un religieux silence se fait tandis qu'il établit le compte de chacun. Puis il paye ses amis en or, les indifférents en argent, et ses victimes, moitié menu-monnaie, moitié billon. Lorsque chacun a reçu ses appointements, l'homme de confiance ne manque jamais de s'apercevoir qu'il s'est trompé de 100 sous à son désavantage. D'un ton de mauvaise humeur, il proteste qu'il ne se chargera plus désormais d'une mission qui ne lui apporte que des désagréments et des pertes, et il insiste pour que chacun recompte son argent. La pièce de 100 sous ne se retrouve pas. Alors, d'un ton furieux et toisant toute la compagnie, « Oh, je soupçonne, certes, dit-il, la délicatesse de personne, mais à coup sûr, il y a un voleur ici. » Au bureau du sommier, c'est ordinairement le jeune Basquin qui se charge d'aller toucher les émoluments de ses confrères. Comme les autres, Caldas s'approcha pour mettre sa signature sur la feuille d'émargement. Basquin l'arrêta. « Ville sieur du Bérère, lui dit-il. « Apprenez que vos pareils ne signent pas à côté de nous sur cet état. Ils vont toucher eux-mêmes à la caisse. »« Mais pourquoi cette humiliation ?» demanda Romain. « Parce qu'ici, répondit Monsieur Raflard, les surnuméraires ne comptent pas. Les 100 francs qu'on vous alloue par mois ne sont pas des appointements. Vous les recevez à titre gracieux de l'administration qui ne vous doit rien. » Ah, c'est un peu fort, dit Caldas. Est-ce que je ne travaille pas comme les autres? Il est vrai, dit Gérondeau, vous n'en faites pas plus que nous. Enfin, vous auriez tort de vous plaindre, ajouta Bascard. Le ministre de l'équilibre est le seul qui paye les surnuméraires. Allez donc voir à la guerre et aux finances. Ainsi, croyez-moi, passez à la caisse et estimez-vous encore trop heureux. Caldas se levait pour suivre ce conseil, tout en se disant qu'il allait goûter du budget pour la première fois et dernière, lorsque la porte s'entrebâilla, une voix flûtée demanda « Pardon, messieurs, est-ce ici le bureau de M. Caldas ?» Romain fit un bond. Il venait de reconnaître le timbre argentin de Mademoiselle Célestine. « Oui, c'est ici, » dit Gérondeau en quittant sa place. « Veuillez donc entrer, madame. » L'ingénue de Grenelle ne se fit pas dire 2 fois. Elle avait une toilette étrange et singulièrement tapageuse. Un chapeau noir en tulle avec une énorme rose rouge ponceau sur le côté, une robe à 36 volants et un burnous gris-perle traînant sur ses talons. Tout ce luxe sentait le temple à 1/4 de lieue, mais Gérondeau fut fasciné. « Caldas, c'est un scélérat, » dit-il tout bas à nourrisson, « ça doit être une femme du grand monde. »« Oh, je le crois, » répondit-il, « elle sent l'eau de la lavande ambrée. »«
Oh, que j'ai eu de peine à vous trouver, monsieur Caldas, » fit Célestine en minaudant, « j'ai cru que j'allais remporter ma veste. »« Personne ne vous connaissait ici. Heureusement, j'ai rencontré un garçon complaisant qui m'a conduit au chef du secrétariat. »
« Ah, monsieur le Campion ?» fit Romain épouvanté.
« Oui, je crois que oui, un vieux qui a une bonne balle de père de noble avec son paravent comme dans Michel Perrin. Oh, voilà un qui a allumé son gaz en me voyant. Faut dire que j'avais soigné mon entrée comme dans le père de la débutante. Je lui ai vendu mon piano et me voilà. »
« Au fait, pensa Caldas, que m'importe, je m'en vais demain. » Pendant ce commencement d'entretien, Gérondeau, d'habitude si familier avec les dames, était resté debout et découvert. L'argot des coulisses que parlait Mademoiselle Célestine lui imposait, et il croyait y deviner le langage des castes privilégiées où il n'est pas admis. Mademoiselle Célestine avait fait d'un coup d'œil l'inventaire du bureau. Elle reprit en tutoyant Romain, oublieuse du décorum qu'elle avait abordé d'abord.
« C'est pas d'une gaieté folle, ton bocal. C'est comme dans Pierrot bureaucrate. En voilà des cartons verts. Qu'est-ce qu'il y a dedans, des souris ?»«
Les souris et les gras, s'y logeraient, madame, si vous y veniez quelquefois, » soupira Gérondeau. L'ingénu de Grenelle considéra un instant le gros expéditionnaire et se penchant à l'oreille de Caldas,
« Il me va, moi, ce petit père, il a l'air farce, c'est comme dans Roger Bontemps. Mais dis donc un peu, t'as pas l'air content. »«
J'ai été gentil pourtant, j'espère que je suis exact. »« Oui, comme une lettre de change, » dit Caldas. Mademoiselle Célestine ne releva pas cet épigramme.
« Est-ce que nous ne jouerons pas les filles de l'air ? » continua-t-elle. « Alors d'abord, je dîne avec toi. Hein. J'ai fait coller une bande sur l'affiche. Relâche pour cause d'indisposition. »«
Saberlotte !» dit Gérondeau, suffoqué. « Une actrice ! Oh, mes rêves !»«
Viens-tu, Romain ?»
insista l'ingénu. Comme ils allaient sortir tous les deux, la porte s'ouvrit de rechef et la tête carrée de M. Kugelstein apparut.
« Monsieur Goldglass, » demanda-t-il.
Romain, qui ne voulut pas initier davantage ses collègues à sa vie d'intérieur, jugea à propos de donner audience à son tailleur dans le corridor. C'est un brave homme que Krugelstern. Quand il eut appris que les appointements de son client n'étaient que de 100 francs par mois, il déclara qu'il se contenterait de 10%.
« Bien, suivez-moi donc à la caisse, » dit Caldas à son tailleur et à son ami.
Ils étaient à peu près aux trois quarts de l'escalier lorsque Romain s'entendit héler par une voix perçante. Il se retourna et se trouva face à face avec le critique Greluchet.
« Oh, enfin, je te repince, » reprit ce littérateur. « Après t'avoir réclamé aux quatre vents du ciel, il y a un mois que j'arrête tous les passants dans la rue pour leur demander ton adresse. »
« Et c'est le 31 qu'on te l'a donné, » observa Caldas.
« Ouais, ne t'es rien scellé, comme on dit à la comédie française, » continua Greluchet. « Ce jour m'a paru propice. »« Mais quelle est donc cette belle enfant ?»
L'ingénue se présenta elle-même. Au paletot de Greluchet, elle avait flairé un homme de lettres, et ses grandes manières lui donnaient une haute idée de son influence.
« Je suis mademoiselle Célestine du théâtre de Grenelle, » répondit-elle en avançant la bouche en cœur.
« Bien, nous vous aurons un engagement pour le vaudeville, » affirma le critique. Et comme Caldas se remettait en marche, il suivit la bande. Au guichet de la caisse, il fallut attendre quelques instants. Quand le tour de Romain fut venu, «
Votre nom ?» demanda le caissier.
« Caldas, » dit-il. Le caissier ouvrit un registre.
« Surnuméraire au bureau du sommier, n'est-ce pas ?
C'est cela même.
Eh bien, vous me redevez 10 francs.
« Comment cela ? » demanda Caldas, qui trouvait la plaisanterie de mauvais goût.
« Oui, 10 francs, une amende du 29.
Soit, oui, mais il me revient 90 francs sur mes appointements. » Le caissier haussa les épaules.
Mais vous savez bien, reprit-il, que le premier mois de vos appointements est versé à la caisse des retraites. Vous le toucherez dans 36 ans.
Est-ce sérieux ce que vous dites là ? Balbutia Caldas, frappé au cœur.
Ah, ne me faites donc pas poser, répondit le caissier en refermant brusquement son guichet.
Alors, ce fut un terrible concert d'imprécations et de plaintes.
« Mais c'est une abomination !» criait Caldas. « Un vol manifeste !»«
Gardez vos argent, je vous en fais cadeau. Elle ne remet plus les pieds dans cette baraque !»
Mais Caldas n'était pas le plus indigne. Qui peindra la fureur de Greluchet, le critique ? Son exaspération se mesurait à la perte qu'il faisait, et il perdait à cette déconvenue 10 francs,
qu'il comptait emprunter à Romain, et un bon dîner qu'il était sûr de faire avec lui.
Ben, il faut leur faire un procès, hurlait-il, leur envoyer des huissiers.
Krugenstern n'était pas satisfait, mais il semblait supporter philosophiquement son malheur. Mademoiselle Célestine, si elle fit une petite moue, reprit vite sa bonne humeur. Elle tira Galdas par la manche.
« Console-toi, » lui souffla-t-elle dans l'oreille. « Mont-Saint-Jean m'a payé ma semaine ce matin. J'ai 7 francs 10 sous. Allez, c'est moi qui t'invite. »
Krugenstern, à son tour, prit Caldas à part. Il le conjura de ne pas donner sa démission, de patienter. Et comme Romain lui faisait observer qu'il ne pourrait rester 30 jours sans manger, ce tailleur, Providence, lui offrit sa table et lui glissa 20 francs dans la main pour son argent de poche. Désarmé par tant de générosité, Caldas lui promit de rester dans l'administration. À ce moment, Romain entendit des rires étouffés dans le corridor, et dans la pénombre, il aperçut un groupe qui se tenait les côtes. C'étaient les bons petits camarades de bureau. Il s'était bien gardé de lui apprendre cette retenue du premier mois. Afin d'avoir l'agréable spectacle de sa consternation, et l'événement avait dépassé leur attente. C'est une mystification qu'à l'équilibre on réserve toujours à l'innocence du surnuméraire. Un nouveau personnage apparut, tout essoufflé. C'était l'aimable Sansonnet. Ce beau jeune homme, qui venait de toucher ses appointements, avait couru au bureau de Caldas pour l'inviter à dîner. Ayant su qu'il était avec une actrice, il avait pris ses maigres jambes à son cou pour ne pas manquer cette bonne fortune de dîner avec une femme de théâtre. « Je vous emmène, » dit-il à Caldas. « Je ne puis, » répondit celui-ci, « je suis avec madame et ces messieurs, monsieur Goluchet, un de nos critiques éminents, et monsieur... » « Mais j'espère, » interrompit Sansonnet, « que madame et ces messieurs me feront l'honneur d'accepter mon invitation. » Tout le monde accepta, et Sansonnet, ravi de dîner avec tant de gens de lettres, prit le bras du tailleur pour se rendre au restaurant. On ne se résigne pas volontiers à perdre 90 francs, et un honnête homme n'a qu'une parole, même avec son tailleur. Voilà pourquoi, le lendemain, retrouva Caldas à son bureau. Mais comme il n'avait pas encore digéré l'affront de la veille, il s'était procuré les tables de mortalité de Deparcieux afin d'étudier la question économique des caisses de retraite. Ce précieux ouvrage lui apprit que la vie probable d'un homme parvenu à l'âge de 25 ans, et Caldas les aurait à la Saint-Jean d'été, est de 14 ans et 8 mois. « Ah, dit-il, je vois bien que l'on trompe ici, mais consultons quelque autre statisticien. » Ricardo, Adam Smith et M. Schnitzler, dont il invoqua tour à tour l'autorité, ne s'éloignèrent guère que de quelques mois du chiffre de Deparcieux. « Allons, pensa Caldas, mes 90 francs courent grand risque d'être flambés. » Mais non, j'en aurai le cœur net, je veux rattraper mon argent. Je resterai ici, je ferai mes 36 ans, et quand j'aurai ma retraite, je suis décidé à vivre longtemps, très longtemps. Pour vexer l'administration et lui faire du tort, je vivrai plus vieux que le centenaire du Constitutionnel, et l'on verra ma longévité dans les faits divers. Cette résolution prise, il concentra toute son intelligence à se donner l'air et l'esprit bureaucratique. Pour commencer, il apporta un vieux paletot, déférant enfin aux observations de M. Raflard, qui à plusieurs reprises avait paru choqué de lui voir conserver pour travailler au bureau ses habits neufs. Le vêtement de travail, en effet, est aussi nécessaire à l'employé qu'au canotier lavareuse. Il n'est pas riche, l'employé en général. Il lui faut faire des miracles d'industrie pour n'avoir pas des chapeaux trop gras avec des appointements si maigres. Il est presque toujours très propre. À le voir dans la rue, on ne devine pas sa gêne périodique. Il a chaîne d'or, vrai ou faux, au gilet. Sa chaussure est soigneusement cirée. Et si son couvre-chef laisse à désirer, c'est que les chapeliers n'ont pas imaginé encore de vendre les chapeaux 60 francs, payables à raison de 2 francs par mois. Le pantalon seul trahit l'employé. Ses plis affreux qui se font aux genoux sont sa désolation. Quelques-uns ont essayé de les prévenir. Pour cela, une fois emboîtés dans leur chaise, ils lâchent leurs bretelles et retroussent leurs pantalons jusqu'à mi-jambe. Vains efforts, la genouillère paraît toujours. Seulement, au lieu d'être à sa place ordinaire, elle est vers le milieu des tibias, ce qui leur donne l'air d'avoir des exostoses. Cette nécessité d'une mise convenable est un des 7 plaies de l'employé de l'équilibre. Il doit être habillé comme un monsieur, lui qui ne gagne pas tant que l'ouvrier. Et l'ouvrier imbécile qui envie le sort de ce bourgeois redingote. Obligé ainsi de sacrifier au paraître, tous au ministère, depuis le chef de bureau jusqu'au surnuméraire, ont une double garde-robe. La grande tenue, celle du dehors, la petite tenue, celle du dedans. Que cette dernière est horrible, grand Dieu! C'est avec des pincettes, lecteur, que je voudrais te présenter les vieux habits noirs, les redingotes ou les paletots que j'ai vus sur le dos depuis d'un collègue de Caldas. On ne les broche jamais, ces fidèles serviteurs. La poussière, l'encre, les taches s'y entassent d'une année à l'autre, si bien qu'un géologue en friperie pourrait, à ses couches successives, assigner avec précision l'âge de chacune de ses loques. Car elle ne sue jamais, les vêtements neufs passent, mais les guenilles restent. La plupart des gens de bureau se bornent à déposer chaque matin, dans l'armoire aux habits dont est pourvue chaque pièce, leur redingote, leur pardessus, et le haillon qu'ils endossent à la plateforme un singulier contraste avec leurs pantalons et leurs gilets quelquefois élégants. On dirait un alliage de brumelles et de chaudrugues du clos. Cependant, il est un genre d'employé qui sait éviter ce contraste, c'est l'employé coquet. Celui-là met sur son dos tout ce qu'il gagne, comme dit le peuple. Il a l'air d'un gandin et dîne à 22 sous. Il porte la raie au milieu du front. Sa barbe est soigneusement ratissée. Il fait canne, gants et lorgnon. L'employé coquet transforme son bureau en cabinet de toilette. Son premier soin en arrivant est de changer de tout ce dont il peut changer. Il quitte ses bottines, vernis pour chausser les savates, et par-dessus sa chemise de batiste, il glisse une blouse de flanelle. Plus heureux est le sous-chef du bureau numéro 10, le Dorset de l'équilibre, qui arrive en toute saison avec une fleur à la boutonnière, rose en été, camélia en hiver. Il occupe une pièce à lui seul, et il peut à son aise, en poussant les verrous, faire peau sale de la tête aux pieds. Il arrive pimpant, s'enferme 5 minutes dans son cabinet. Lorsqu'il en sort, on lui donnerait un sou. Le chef du bureau numéro 4 est bien heureux aussi d'avoir une pièce pour son usage particulier. C'est le ci-devant Brou. Il se teint les cheveux, se peint les veines et réussit presque à réparer des ans l'irréparable outrage. Ses dents, surtout, sont un chef-d'œuvre. Et s'il se renferme toujours dans son bureau, c'est qu'il a l'habitude, dit-on, de les ôter pour travailler. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y rend la liberté à son ventre, emprisonné hors du bureau, dans un corset énergiquement sanglé. Cet homme bien conservé a eu jadis des succès auprès des femmes. Il en a encore moyennant une 12 000 francs par an. Il roucoulait la romance dans les salons sous la restauration. D'aucune assure qu'on peut encore le faire chanter aujourd'hui. Il affectionne les étoffes de couleurs tendres, porte l'habit bleu barbeau à boutons d'or, et l'été se montre avec des pantalons de Nankin. À côté de ces représentants de la fashion, se blasse naturellement l'employé qui va dans le monde. Celui-ci fait de son bureau un petit pied-à-terre dans Paris où son budget restant ne lui permet pas d'habiter. C'est dans les environs de Montrouge ou de Charonne qu'il a son domicile effectif. Sa tenue de danseur est soigneusement pliée dans une petite armoire fermant à clé. Il y enferme également des chemises que la blanchisseuse vient prendre tous les 8 jours. Lorsqu'il est invité à une soirée ou à un bal, il va dîner sans se presser, passe ensuite 1 ou 2 heures au café, et sur les 8 heures du soir, regagne son bureau, où le portier à qui il a donné le mot et peut-être la pièce, le laisse pénétrer sans difficulté. Là, il se rase, se peigne, se lave, s'habille et se pomponne. Les maisons où les fêtes se prolongent jusqu'au jour sont celles qu'il préfère. Il reste jusqu'au dernier cotillon et alors regagne encore son bureau. Il se déshabille, revêt sa défroque de travail, allume un grand feu et s'endort. L'arrivée de ses collègues ne le réveille pas, il les a dressés à respecter son somme. L'employé qui va dans le monde y va rarement pour son plaisir. C'est une besogne, une tâche qu'il s'impose. Toujours un motif secret le guide. Il chasse à l'héritière. Il cherche des relations et recrute des protecteurs. Il y en a qui ne vont au bal que pour être invités ensuite à dîner. Dans tous les cas, l'employé qui va dans le monde est cher à la maîtresse de maison. C'est le danseur dont les jambes sont infatigables. Une fois monté, il va toujours, pourvu qu'entre chaque danse, il ait le temps d'avaler un rafraîchissement. C'est l'homme précieux et dévoué. Il fait valser des dames qui pèsent 200 et polk avec des jeunes demoiselles de 6 ans. Il est le cavalier servant des dames en turban qui font tapisserie et on lui donne, lorsqu'il entre, la liste des quadrilles qu'il devra faire danser. Le rêve de tous ces danseurs diplomates serait d'être invité aux bals officiels, aux bals surtout que donne le ministre de l'Équilibre. Mais les invitations passent bien au-dessus de leur tête. Pendant cite un cependant simple commis qui s'avisa l'an passé d'un stratagème qui lui ouvrit l'eldorado de ses rêves. Cet homme intrépide avait d'avance revêtu son costume de bal. Il réussit, à la sortie des bureaux, à se glisser dans le corps de logis occupé par le ministre. Là, il s'enferma dans un de ces réduits où, d'ordinaire, on reste le moins longtemps possible. Il y resta, lui, de 4 heures à 10 heures du soir. À ce moment, les salons étaient pleins, et il aurait passé inaperçu sans les émanations subtiles et exotiques qu'il traînait après lui. Chacun se demandait d'où venait cet homme, plus parfumé qu'un couplet de M. Clerville. Un employé supérieur, présent à la fête, éventa ce mystère. On sut par où avait passé l'intrus pour pénétrer dans les salons. Depuis, par ordre supérieur, on n'oublie plus de l'inviter à tous les bals. Déterminé à rester à l'équilibre, Caldas en arriva vite à se poser ce problème. À quoi mène l'administration ? Parmi les amis qu'il s'était faits au ministère, il avait distingué 2 fortes têtes, 2 commis principaux à peu près du même âge, appartenant au même bureau et travaillant dans la même pièce. L'un s'appelle Bizos et l'autre Sandemois. Monsieur Bizos est un homme de 34 ans, maigre et de haute taille, à l'air à la fois intelligent et distingué. Il est commis principal depuis 3 ans et n'a en tout que 50 services. Bizos est un déclassé. Son adolescence a été orageuse et de toutes les entreprises qu'il a tentées avant d'entrer dans l'administration, aucune ne lui a réussi. À 17 ans, à la suite de fredaines de jeunes hommes, il s'est engagé dans un régiment de cuirassiers. Après 2 ans de service, son père était obligé de le faire remplacer pour lui épargner les désagréments de passer devant un conseil de discipline. Depuis, successivement, il a été associé d'une fonderie de fer, sous-directeur d'une ferme modèle, commissionnaire en marchandises et juge suppléant au tribunal d'Oloron dans le Béarn. Car il a trouvé le moyen de se faire recevoir docteur en droit, tout en courant ses aventures. En dernier lieu, il avait entrepris l'exploitation d'un brevet pour le dévidage des cocons du ver à soie de la Liante, et un incendie, une inondation et l'avant-dernière crise sur les soies le frappèrent coup sur coup et firent avorter toutes ses combinaisons. C'est après ce dernier désastre, et lorsqu'il allait avoir 29 ans, que, désespéré, sans position, sans fortune, il se décida à entrer dans l'administration. Pour lui, ce n'était pas le port après le naufrage. Il comptait bien n'y pas rester. Il voulait prendre terre, attendre les événements et se remettre en mer à la première prise favorable. Sans doute, l'occasion ne s'est pas encore présentée, puisqu'il est toujours ancré au ministère. Son avancement d'ailleurs a été rapide, et cependant il a perdu toutes ses illusions sur la carrière bureaucratique. C'est le type achevé de l'employé tant pis. Il n'aime pas l'administration. À tout et toujours, il trouve à redire. Lui demande-t-on comment il s'y prendrait pour faire mieux ? Il répond que quand il sera ministre, il dira son secret. En attendant, il n'est pas une décision qu'il ne critique. Dans chaque mesure, dans chaque acte émanant de l'autorité supérieure, il voit autant de fautes, autant de pas de clair. L'administration a-t-elle eu raison ? Ce succès le désole. Il hausse les épaules et se remet le plus bel à la chasse des balourdises et des inadvertances. Mais si vraiment l'administration s'est trompée, il se frotte les mains et est radieux. Il a en médiocre estime le caractère de ses chefs, en plus médiocre estime encore celui de ses égaux et de ses subordonnés. Il trouve les premiers insolents et vains, les seconds plats et envieux. Lui-même n'est pas envieux. La réussite d'un collègue ne le chagrine aucunement. Il y a beaucoup de mépris dans cette indulgence. Il rit des petites ambitions qui s'agitent autour de lui. Son orgueil en fait comme un géant au milieu des nains. Il s'est fabriqué une philosophie qui est le contraire de celle de Pangloss. Il ne voit les choses que par leur mauvais côté et s'attend pour lui-même, comme pour les autres, à toutes les déconvenues imaginables. Il prétend qu'en entrant au ministère, il a lu au-dessus de la loge du portier les mots que Dante écrivit à la porte de l'enfer « Laissez ici toute espérance ». Il faut l'entendre argumenter à perte de vue sur ce sujet avec son collègue et voisin, l'employé tant mieux. Celui-ci fait profession de respect et d'amour. Son dévouement est à toute épreuve et son admiration ne connaît pas de bornes. Depuis qu'il est au ministère, on a déjà 5 ou 6 fois changé de système et il les a tour à tour défendus avec chaleur et qui plus est avec conviction. Il parle bien et dans une autre enceinte ferait peut-être un orateur, mais à coup sûr, ce serait un orateur du gouvernement. Peut-être pense-t-il, comme M. de Cassagnac, qu'il faut toujours défendre l'autorité. Il croit au dogme de l'infaillibilité ministérielle. Et ce n'est pas un jeu joué, un parti pris. Il obéit à la tournure de son esprit. Il réalise le type du parfait croyant entrevu par ce mystique docteur du Moyen-Âge qui s'écriait brûlant de foi Credo qui absurdum.
Je crois parce que c'est absurde.
La foi de l'employé, tant mieux, est inébranlable.
Homme d'esprit, il a pu jauger certains de ses chefs sans que son respect en fût altéré.
Un supérieur incapable ne prouve pas plus à ses yeux contre l'excellence du système administratif qu'un Alexandre VI sur le trône pontifical n'ébranle les convictions d'un catholique. Victime d'injustice, il ne s'est jamais plaint et, ce qui vaut mieux, ne s'est pas trop attristé. S'il en a souffert ou il ne s'en prend pas à ses dieux, il s'en prend au hasard, à l'inconnu, et il reste parfaitement convaincu que la réparation ne peut tarder à venir. Il est sûr et il attend. L'administration sait bien qu'il ne se plaindra pas. C'est l'employé selon son cœur, toujours content, toujours louangeant. Faut-il une victime ? C'est lui qu'elle choisit. Cette vivante contrepartie de M. Bizos et M. Sang de Moi. Tels sont les deux oracles qu'alla consulter Romain. « J'ai 25 ans, leur dit-il. J'ai fait bon droit et voilà 5 semaines que je suis entré ici. »«
Tant pis, » dit M. Bizos.
« Tant mieux, » dit M. Sang de Moi.
« Oui, vous avez peut-être raison tous les deux, » reprit Caldas, « mais enfin, puisque j'y suis, que dois-je faire ?»«
Mais donnez votre démission tout de suite !» dit M. Bizos.
« Restez, travaillez, attendre !» dit M. Sang de Moi.
« Mais pourquoi ?» demanda Caldas.
« Ah, nous y voici !» reprit M. Bizos. « Mais l'administration est une impasse, il faut en sortir. Aujourd'hui, vous le pouvez, mais demain, il sera trop tard. En 3 mois, la vie de bureau use l'énergie. On s'habitue à tout, même à recevoir tous les matins une volée de coups de bâton. Vous prendrez l'habitude de vous ennuyer. Regardez-moi, je vieillis ici 1 an tous les jours. J'ai pas le courage de m'en aller. Il faudra un événement pour me décider à donner ma démission. La porte vous est encore ouverte, mais sortez par la porte et n'attendez pas d'être obligé de sauter par la fenêtre. À mon tour, dit Sang de Moi. Il faut rester, parce qu'ailleurs vous seriez sans doute plus mal qu'ici. Il vaut mieux tenir que courir. Vous gagnez peu, mais c'est sûr. Il faut travailler, parce que le travail est l'artisan du succès, et qu'on ne s'ennuie jamais quand on travaille. Il faut attendre, parce que l'administration ne peut pas manquer de vous récompenser, et que chaque heure qui s'écoule vous donne un droit de plus à ses faveurs. L'homme intelligent et actif peut compter sur elle. L'avancement est pour lui seul, en définitive. Et si l'on vous dit qu'elle voit du même œil le fainéant et le travailleur, n'en croyez rien. C'est un bruit que les paresseux font courir.
« Je goûte fort vos raisonnements, » dit Caldas, « mais vous êtes resté dans les généralités, et sur ce terrain on plaide avec un égal avantage le pour et le contre. Passons, s'il vous plaît, à mon cas particulier. Et puisqu'il s'agit de moi, faites de la personnalité.
Soit, » continua M. Bizos, « vous gagnez aujourd'hui 1200 francs, dans 3 heures vous en gagnerez 1500, dans 6 heures 18, et ainsi de suite. À 40 ans, vous aurez un traitement de 4000 francs, c'est-à-dire à peu près de quoi manger quand vous n'aurez plus de dents. Et notez bien que je vous dois la pilule. Je vous suppose de ces gens heureux ou adroits qui retournent le roi 5 fois par partie. Vous ne serez ni heureux ni adroit. Attendez-vous donc, avez-je été toute votre vie dans un emploi de 1000 écus ?
J'admets le calcul de M. Bizos, riposta M. Sang de Moi. Seulement, il porte à faux.
Si tous les appelés ne sont pas élus, c'est de leur faute. Nous sommes 3000 employés à l'équilibre. 1500 resteront copistes parce qu'ils sont inintelligents ou paresseux. Ce sont les traînards et les éclopés, ils peuvent faire leur mea culpa.
1000 ne dépasseront pas les grades intermédiaires, ce sont les négligents et les insoucieux. C'est le noyau de notre corps d'armée. Mais à culpa encore pour ceci. Les saints, sans autre, forment l'état-major, avec des capacités, du tact surtout. On est toujours de cela, monsieur Caldas. D'ici 3 ans, vous devez être commis principal, sous-chef dans 5 ans, chef de bureau 2 ou 3 ans plus tard. Vous aurez 33 ans et toutes vos dents encore pour manger vos 8 000 francs d'appointement. Arrivez là, l'avenir est à vous. Vous devenez chef de division et enfin, je sais pas, directeur, conseiller d'État, etc. Tous les chefs de bureau deviennent directeurs. C'est écrit là-haut. Parbleu, dit M. Bizos, je vous engage à vous citer pour exemple. Vous êtes un excellent employé. Après 18 ans de service, vous avez 3 000 francs d'appointement. Je puis avoir été négligé en apparence, répondit M. Sandbois, mais un dédommagement certain m'attend. Mon avancement, pour avoir été tardif, n'en sera que plus rapide. D'ailleurs, vous-même, vous êtes la preuve de ce que j'avance. Vous qui, en 5 ans, sans protection et sans intrigue, êtes arrivé au même point que moi. Mais si je vous entends bien, dit Caldas, les chances sont à peu près égales, comme à la roulette. Et puisque je suis ici, ma foi, j'ai bonne envie d'y rester. Ah, tant mieux, s'écria M. Sandemois. Mais tant pis, s'écria M. Bizos. Mais élucidons encore la question, reprit Caldas. Considérons la chose au point de vue de la vie privée. Un employé de l'équilibre doit-il se marier ? Toujours, fit M. Sandemois. Jamais, fit M. Bizos. Parlez, dit Romain. Le mariage est une chose grave, reprit M. Bizos. On se marie par amour ou pour de l'argent. Mais les mariages d'amour ne sont permis qu'aux millionnaires, qui sont trop raisonnables pour faire cette folie. Donc il vous faut une dot, et les dots ne se jettent pas à la tête des jeunes commis à 2004. C'est à la fleur du bel âge de 50 ans que vous pourrez songer à prendre femme. Si vous vous mariez jeune, ce sera avec une fille pauvre. Vous ne mangerez que des pommes de terre dans votre ménage. Si vous vous mariez vieux, vous serez odieux ou ridicule. Dans tous les cas, époux imberbe ou barbon, le métier que vous faites est dangereux pour un mari. Absent toute la journée, votre femme s'ennuie. Et quand une femme s'ennuie... Mais est-ce qu'une femme a le temps de s'ennuyer dans la journée ? Répliqua M. Sandemois. Elle trouve trop d'occupation dans son intérieur, alors même qu'elle n'aurait pas à ses côtés un enfant, ange gardien du foyer. Une femme ne s'ennuie que le soir, quand son mari déserte la maison. Et d'ailleurs, où sont les hommes qui appartiennent exclusivement à leur femme ? Est-ce le médecin, cet homme de dévouement qui n'est même pas maître de ses nuits ? Est-ce l'avocat, le juge, l'artiste ? Il faut que l'employé se marie le plus tôt et le mieux. L'employé marié présente plus de surface, plus de garantie. C'est un citoyen, tandis qu'on devrait refuser ce titre aux célibataires inutiles. Et les bons partis ne vous manqueront pas. Quel père de famille ne s'estime heureux de donner sa fille à un homme muni d'un emploi sûr ? Ne sait-on pas d'ailleurs que l'administration protège l'employé marié et lui donne de l'avancement en raison du nombre de ses enfants. Alors, comme je veux être directeur, dit Caldas, je me marie et j'ai beaucoup d'enfants. Mais tant mieux, fit M. Sandemois. Tant pis, fit M. Bizos. Bien, 1000 remerciements, messieurs, dit Caldas. Si l'on suit jamais les conseils qu'on demande, je serais vraiment fort embarrassé.